vous êtes toujours sur Odeur Radio pour l'émission des JRE, les jeunes reporters européens. On est nombreux autour de cette table aujourd'hui. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Buna, Dobardan. On a Richard avec nous, Guillaume, Emeline, Alex, Héloïse et Sacha et moi-même Ingrid pour animer. Donc aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est littérature. On espère que vous aimez tous lire et les livres. Donc, on va d'abord commencer par toi, Alex, notre invité. Tu viens de Roumanie. Donc,
oui, je viens de Roumanie et aujourd'hui, je commence. Je suis tellement... je suis très effrayée. Et je ne veux pas parler, mais je vais essayer. Je vais parler un peu sur Ion Crangă, qui est un écrivain roumain. Je vais vous dire quelque chose. Il est généralement considéré comme un des trois auteurs majeurs de la littérature roumaine, avec Mihai Eminescu et Ion Luca Caragiale. Il a écrit en prose et a adapté la littérature populaire paysanne. Mm-hmm. Sa biographie, Souvenir d'enfance, est tout à fait spéciale. Ion Crangă est une villageois, non pas un bourgeois. C'est une écrivain qui sent le terroir, qui décrit le monde rural avec sincérité et naïveté à travers du récit parsemé d'expressions patoisantes. C'est comme ça, patoisantes. C'est un mot difficile. Sa littérature figure également une bonne place parmi les classiques de la littérature pour les enfants. L'histoire Ursul Păcălit de Vulpe, l'ours abusé par la renarde, est par exemple un texte très populaire. D'autres contes incluent Soacra cu trei nurori, La belle-mère aux trois brus, Fata Babe și Fata Moșului, La fille de la vieille et La fille du vieux, et Capra cu treiez, La chèvre, tu connais? Ah, super! Et les trois chevreaux. Et maintenant que vous savez un peu plus sur Ion Crangă et ses écrits, voudriez-vous entendre une de ses histoires en roman?
Oui.
Et d'essayer de traduire ou de deviner de quoi s'agit-il?
Ça marche.
Ok, d'accord. Je dois trouver mon texte, il est là. Ok, d'accord. Cu mult timp în urmă, într-o casă mică cu privor de lemn și flori roșii pe ferestre, locuia o capră care avea treiezi. Cel mai în vârstă și cel mijlociu erau foarte neascultători, dar cel mai mic era înțelept și muncitor. Într-o zi, capra le-a spus copiilor că va merge în pădure pentru a aduce ceva de mâncare și că în acest timp nu ar trebui să deschidă ușa nimănui. Când se întoarce, ca să fie recunoscută, ea le va cânta. Treiesc, cucuiesc, ușa mamii descuieți, că mama va duce vouă, frunză în buze, lapte în țâțe, drop de sare în spinare. Nu-ți face griji, mamă, au răspuns copiii. Vom fi atenți.
Wow!
Oui, je sais, je parle très bien le roman, merci.
Quel accent, c'est magnifique. Alors, est-ce que quelqu'un a des idées autour de la table sur la thématique ou a pu capter quelques mots? Emeline, toi qui as fait découverte roumain.
Oui, merci.
C'est quel niveau?
J'en ai aucune idée, mais est-ce qu'il y a une histoire de chèvre et de moine ou pas?
Oui, c'est une histoire de la chèvre mère.
D'accord.
Et de ses trois enfants.
Ah, c'est la chèvre et les trois chevreaux, du coup. C'est le dernier, c'est celui qu'on disait tout à l'heure?
Avec Mazon et tout ça, avec Mazon avec trois plats pour chacun, c'est ça?
Non, c'est pas ça, non.
Ah oui,
non.
Bien sûr.
Non, c'est pas ça.
Dans le micro, on a un peu oublié, pardon. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire
de Mitu? C'est l'histoire de la chèvre mère et de ses trois enfants et de ce qui se passe après qu'elle les a laissés à la maison pendant qu'elle est partie pour chercher de la nourriture. Et elle leur ordonne d'ouvrir la porte de la maison seulement en l'entendant chanter une chanson spécifique. Mais le méchant loup surprend la conversation et il change sa voix pour imiter la mère. Et malheureusement, l'aînée et le cadet sont trompés et ils sont mangés par les loups.
Ça arrive.
Et le Benjamin, le plus petit, elle est le seul qui n'est pas mangé par les loups parce qu'il est le plus sage et il a réussi de se cacher.
Ok.
Et donc, je sais, c'est un conte étrange, c'est un peu bizarre, comme beaucoup d'autres contes roumains.
Bon. Pourquoi? Parce que
c'est
triste.
Tragico. Oh. C'est tragique. C'est tragique. Oui, mais l'histoire a un message très fort que les enfants doivent écouter à leurs parents.
Mm-hmm. Très bien. Et eh ben écoute, merci beaucoup pour cette découverte.
Merci.
On fera lire ça à nos enfants plus tard, peut-être, s'ils ont, s'ils sont pas sages. Du coup, on va passer maintenant à un petit jeu proposé par Héloïse. Donc, on a un petit changement de micro qui s'opère, mais prenez votre temps, on s'installe, il n'y a pas de souci. Et il faut savoir qu'on n'a que 3 micros et qu'on est à peu près 6 autour de la table. Du coup, c'est un peu compliqué. C'est la technique. Bon, alors. Héloïse, est-ce que c'est bon, t'es prête,
c'est
bien installée?
Je suis prête. Alors ça y est, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve sur les ondes pour une chronique tout en rythmique. Et oui, pas de surprise, quand on me parle de littérature, dans mon esprit, il n'y a pas de rature, car c'est le mot poésie qui s'affiche sur mes fiches. Saviez-vous qu'elle était née chez nous? Son berceau est celui de l'eau, plus particulièrement le bassin méditerranéen de notre vieux continent. Les marins de la Grèce antique racontaient leurs récits fantastiques au travers de rimes et de vers. Avant de partir en mer, ils conjuraient la colère de Poséidon en lui dédiant quelques chansons. Homère, au 7e siècle avant Jésus-Christ, est le premier à avoir écrit officiellement de la poésie. On l'imagine en compagnie de sa lyre, en train de chanter dans les rues d'Athènes à la gloire d'Ulysse et de ses supplices, dans ses conquêtes inespérées pour l'Iliade et l'Odyssée. La poésie est avant tout multiculturelle. De sa beauté, elle déploie ses ailes. Tout comme l'Europe, elle a ouvert ses portes, et son sillage se propage à travers les âges. Elle ne possède pas de frontières et traverse toutes les barrières en un éclair. Rendons hommage à la poésie de la fantaisie en jouant à un jeu qui nous rendra bien heureux. Voici quelques poèmes que vous allez lire à l'antenne, et ils sont issus de pays européens. Et comme vous êtes bien malin, vous arriverez à deviner sans problème le thème de ces poèmes. Alors pour cette première manche, pas de difficulté, car je laisse l'honneur à nos invités de lire ces poèmes. Alors, qui veut commencer?
Peut-être Sacha? Oui.
Oui, oui.
Attends, attends.
Ouh. Alors, je vais lire serbe ou français?
En serbe.
En serbe, oui. Ok, alors. Mesečina, al meseca nema. Moja mila zelen, venac snila. Pak se malo usnu nasmijela, od toga se ponoć zasijela.
Alors, est-ce que vous avez une petite idée du thème?
La nature.
Ouais, ça démarre bien.
Ouais, bien joué.
La montagne.
Non.
Les ça fleurs tu... et les oiseaux.
Toujours pas de
ouais,
micro.
Il y a une fleur, il y a une fleur. Ah. Effectivement.
Alors ?
Alors, donc le thème de ce poème, c'est la nature, les fleurs et l'amour, et particulièrement le thème de la fleur de la rose. Alors, ce poème a été écrit par Jovanović Zmaj. Est-ce que je le prononce bien, Sacha ?
Pas du tout.
Alors, vas-y.
Jovanović Zmaj.
Ok, je l'ai prononcé à la française. Donc, Jovan Jovanović Zmaj est un écrivain serbe du 19e siècle. À l'automne 1861, il tombe amoureux de la jeune Ruja Likanin. Alors, est-ce que ça se dit Ruja Likanin, Sacha ?
Ruja Likanin.
Ruja Likanin. Mais malheureusement, comme bien souvent, leur histoire est impossible, car lui est issu d'une famille d'ouvriers serbes et elle d'une famille bosniaque aisée. Bosniaque, bosnienne, c'est toujours le débat.
Toujours pas sûr.
Et pour pouvoir déclarer son amour à sa dulcinée, mais sans déclencher la fureur des deux familles, il va alors écrire deux recueils de poésie, Rose et Rose fanée. Dans ses poèmes, il ne cite jamais le nom de Ruja, mais il existe néanmoins des indices sur ses goûts, pour que celle-ci comprenne que ses poèmes lui sont destinés. Ils vivront finalement leur amour en secret et finiront par se marier. Et donc ce poème, Rose numéro 7, est l'introduction de son premier recueil de poésie.
D'accord, super, super intéressant.
Voilà, c'est mignon.
Est-ce que tu as d'autres petits poèmes à nous proposer?
Oui, alors je laisse la parole à Alex.
Et on continue avec la Roumanie encore une fois, merci. Și dacă, și dacă ramuri bat în geam și se cutremur plopii, e ca în minte să te am și încet să te apropii. Și dacă stele bat în lac, adâncu-i luminându-i, e ca durerea mea să-mi pac, înseninându-mi gândul. Și dacă norii deși se duc de iese în luciu luna, e ca aminte să-mi aduc de tine întotdeauna.
Alors, une petite idée?
Au hasard, la nature?
Toujours, toujours. Oui, toujours la nature, mais c'est le thème prédominant en poésie, c'est vrai.
La montagne?
L'amour?
Non, il n'y a pas d'histoire d'amour cette fois-ci.
Ah, des petits oiseaux?
Non plus.
Les fleurs?
Plus ou moins. Non, le thème principal de ce poème, c'est toujours la nature. Et en fait, il a été écrit par un poète dont tu as parlé tout à l'heure, Mihai Eminescu. Alors, est-ce que je l'ai dit bien?
Presque.
Presque.
C'est Mihai Eminescu, mais c'est...
Mihai Eminescu.
Ah oui, très bien, bravo.
Mihai Eminescu. Eminescu. Et donc, ce poète est né au nord de la Moldavie. Il est la version roumaine de nos poètes maudits français. En effet, c'est le chef de file du romantisme au XIXe siècle en Roumanie. Et comme Rimbaud et Verlaine, il a vécu une vie assez tourmentée qui lui inspira ses nombreux vers. Il fut soldat pendant la guerre en Roumanie quand il s'est battu contre l'Empire russe face à l'Empire ottoman. Et ses thèmes principaux sont toujours la nature, l'amour, la vie, la philosophie. Voilà, il y a de la joie. Alors, est-ce qu'on a le temps pour une deuxième petite manche?
Une troisième du coup, non?
Ok, un dernier poème.
Ok.
Ok. Alors, un poème assez rigolo, je vais le donner. Qui veut se lancer?
Richard, évidemment.
Ok, Richard.
Alors, je suis très mauvais en poésie, c'est vraiment le truc auquel j'y arrive pas. Alors, je découvre le... en Belgique. Ok, donc, alors, c'est du néerlandais, je m'excuse d'avance à notre ami Tommy, qui est d'origine néerlandaise et qui va adorer mon accent. Rimbaud, Tamboer, in de rue de Rivoli, rue de Rivoli, Pierre Lala, Gevangen, Zint en Zinkist, en Ich, Bich, Noj, Bonventure. Est-ce qu'on j'ai vraiment besoin de continuer? Vraiment?
Emeline, elle voulait aussi tenter.
Attends, Emeline, tu veux tenter parce que moi, je pense que je vais m'arrêter là.
Alors, un petit micro pour Emeline. Est-ce que tu aurais un meilleur accent que Richard?
Zirit met scapino, det ovenar i komt. Pierre Lala y trompt. Rimbombom, rimbomboum.
Rimbombom.
Et ça continue? Ah non, après c'est la traduction.
Oui. Ah, c'est intéressant.
oui, la traduction est assez rigolote. Alors du coup, est-ce que vous avez une idée de ce thème du poème néerlandais?
Alors, ça parle de Rimbaud et de la rue de Rivoli.
Effectivement.
C'est tout ce que j'ai compris.
Effectivement, en fait, c'est un poème loufoque qui n'a pas vraiment de thème. Alors je vais vous lire la traduction. Cortège, Rimbaud, Rimbobo, Ribaud, tambourine, rue de Rivoli. Pierre Lala, prisonnier, dans son cercueil chante « Après vos fesses, je lâche mon chien. » Ricky, Rikikiki, la banshee crie à cause des fantômes de la nuit. Elle chevauche avec Scapino, le magicien. Il arrive à la bourre, Pierre Lala, il bat le tambour, Rimbaud, Rimbobo, Rimbobom.
Ce qui est intéressant, c'est que même en français, tu comprends pas, donc au moins...
Alors, donc, ce poème, en fait, fait partie de la nomenclature littérature très importante en Belgique. Donc, vous l'aurez compris, c'est du néerlandais. Il a été écrit par Peter Olvo et Hansen. Alors, je suis désolée si j'écorche son nom, mais je suis pas très forte en néerlandais. Donc, chez nos voisins le belge, on parle officiellement trois langues, le français, l'allemand et le néerlandais. Ce poète est né à Anvers en 1960. Sa poésie néerlandaise fait se joindre les extrêmes, l'humour et l'émoi, la routine et la folie. Et sa façon de lire ses poèmes en public est particulièrement enthousiasmante. La teneur théâtrale et musicale de son œuvre fait que les performances du poète sont très appréciées lors des festivals, des soirées burlesques, des années 60. Donc voilà. J'espère que mon petit jeu vous aura plu.
Merci beaucoup Héloïse, c'était super intéressant. Merci pour ce petit moment poésie. On enchaîne rapidement avec Richard qui nous propose une chronique prix Nobel.
C'est ça. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc plus général. Donc bonjour à tous. Pour une fois que l'on a un sujet assez large aujourd'hui, on peut se dire qu'on va enfin pouvoir devenir un vrai chroniqueur littéraire, aussi aigri que ceux du masque et de la plume. C'est un peu autre chose que de faire un sujet sur le traitement de la gueule de bois en Pologne.
C'était une super émission celle-là.
Ouais. Donc bon, un sujet pareil, vous voyez, c'est un peu comme arriver face à un buffet à volonté. Il y a plein de trucs, ça a l'air appétissant, mais on sait jamais par où commencer. Je sais, je fais des super métaphores aujourd'hui, on est à fond dans la littérature. Ouais. Donc j'aurais pu vous parler de Shakespeare pour trouver une utilité à ma licence d'anglais, mais je me suis dit que c'était trop facile, que ça allait faire prétentieux et je serais forcément tombé dans le piège de la chronique facile en sortant toutes les deux phrases d'une référence à Hamlet. J'ai donc choisi aujourd'hui d'avoir l'air encore plus prétentieux et de vous parler du prix Nobel de littérature, du prix en lui-même et pas du dernier Nobel de littérature qu'a reçu Kazuo Ishiguro, n'est-ce pas Ingrid?
Oui.
Alors pourquoi parler de prix Nobel parce que c'est un prix international? Revenons à la base. Derrière ce prix récompensant la littérature, la paix, la médecine et toute autre valeur positive en général pour l'humanité, se trouve le marchand d'armes et inventeur de la dynamite suédois Alfred Nobel. On peut alors se demander qu'est-ce qui pousse un marchand d'armes à promouvoir la paix, question à laquelle répond déjà le film Iron Man. On peut sans doute imaginer que l'explosion de son usine de dynamite en 1863 a pu entraîner une certaine prise de conscience pour Alfred, puisque 5 personnes y trouvent la mort, dont son frère, ou même, peut-être, la lecture de sa propre nécrologie, publiée par erreur par un journal français un an avant son décès, le traitant de marchand de mort a pu faire l'effet d'un choc. C'est donc en 1896 qu'Alfred Nobel meurt, pour de vrai, que son testament est créé en fait le prix Nobel. Sa fortune est alors placée et les capitaux reviennent à des organismes chargés de redistribuer l'argent aux personnes méritantes, dont l'Académie en fait suédoise, qui se charge alors de désigner le prix Nobel de littérature. Bien sûr, ce testament ne lègue rien à sa famille, qui essaye de le contester en vain. Alfred Nobel, c'est donc un mélange de Johnny Hallyday et de Tony Stark. Un Tony Hallyday. Donc, revenons au prix Nobel, s'il vous plaît. Alors, le Nobel de littérature consiste à la désignation par l'Académie suédoise d'une personnalité pour l'ensemble de son œuvre littéraire, qui se voit alors remettre une distinction, le prix donc, ainsi qu'une certaine somme d'argent qui se monte à environ 150 000 euros. ce qui n'est pas trop trop mal. Le prix est décerné chaque année, sauf rare exception, depuis 1901, et on retrouve quelques noms connus dans la liste de lauréats. Par exemple, chez nous, on a Albert Camus, qui le reçoit en 1957, et plus récemment, Modiano en 2014. Jean-Paul Sartre également le reçut en 1964, mais il préféra le refuser. Sachant par l'intermédiaire de rumeurs en fait, qu'il allait sans doute le recevoir, il écrivit une lettre à l'Académie afin de refuser ce prix. En effet, pour lui, en gros, si jamais il recevait une charge officielle, comme la Légion d'honneur, il avait peur d'être bridé dans son travail. Manque de chance, avec des guillemets, sa lettre arriva trop tard chez les Suédois et il reçut quand même le prix Nobel. Eh oui, c'est ballot. Mais les prix ne concernent pas uniquement en fait, les hommes européens, parce qu'il y a d'autres auteurs outre-Atlantique qui ont été récompensés, comme Toni Morrison, William Faulkner ou le poète T.S. Eliot. T'aurais pu en parler, Héloïse, parce que ses poèmes, c'est incompréhensible. C'est également le chanteur Bob Dylan qui fut récompensé dernièrement en 2016 et qui créa un débat, en fait. Et puis, être ou ne pas être prix Nobel de littérature, Dylan refusa le prix dans un premier temps, avant de le recevoir à huis clos, loin des honneurs de la presse. Et on touche là à un autre sujet. Nobel de littérature, même le prix Nobel fait débat. En effet, une critique que lui reprochait Sartre est que le prix est par exemple trop centré sur le monde occidental. Une critique qui a déjà été adressée dans les années 60, mais si jamais on regarde par exemple les 10 derniers auteurs qui ont été primés dans les années 2000, on a seulement 2 lauréats qui viennent en dehors d'Europe. On pourrait également parler de la représentation des femmes parmi les lauréats, qui sont clairement minoritaires. Pour un siècle d'existence de ce prix, on a une dizaine de lauréates. C'est pas beaucoup quand même. De plus, l'Académie suédoise, elle est dans la tourmente depuis peu, puisque dans la continuité du scandale MeToo, puisque par exemple l'actuelle secrétaire de l'Académie, Sara Danius, a démissionné suite à la dénonciation par 18 femmes qui ont accusé une personnalité culturelle de premier plan de viol et d'agression sexuelle.
Oh.
Ouais, donc le port de premier prix balancé se trouve être français, bravo les mecs, conjoint d'une membre de cette académie. Il faut de plus préciser que sur les 18 sièges qui existent dans cette académie, 11 sont vacants de façon régulière suite à de multiples désaccords et autres chicaneries entre ses membres. Il y a donc quelque chose de pourri au royaume voisin du Danemark. Le prix Nobel est décerné par une institution représentée par un groupe de personnes et on peut se demander quelle légitimité a cette institution et peut-être qu'elle devrait changer un siècle après sa création. Le Nobel littéraire n'est pas seulement le seul qui peut se contester. Regardez celui de la paix. Récemment, c'est Aung San Suu Kyi, la figure d'opposition de la junte militaire birmane et prix Nobel de la paix qui est dans la tourmente suite à sa non-réaction face aux violences que subit la minorité des Rohingyas. Enfin bref, le prix Nobel, c'est une haute distinction, c'est vrai, mais comme à chaque chose qui récompense quelqu'un, on peut toujours se demander sous quelle autorité le patronage peut se remettre. Donc c'est pas facile de finir avec une fin positive, je m'en excuse, mais je peux juste te dire que j'ai pas réussi à tenir ma promesse et que j'ai fait 2 références au prince du Danemark. Allez, je te rends l'antenne, Ingrid.
Merci Richard, c'était super intéressant. Donc finalement, le prix Nobel, ouais, c'est pas si terrible que ça, mais du coup, non seulement marchand d'armes... Oui, qu'est-ce qu'il y a?
Non, rien, j'attendais, j'ai cru que t'allais réagir.
Non, non, mais c'était juste petite remarque, mais j'ai appris plein de choses. Mais du coup, ouais, ça va peut-être... Oui, je me demandais, voilà, c'est ça ma question, j'étais en train de réfléchir. Est-ce que du coup, les gens qui sont dans le bureau pour choisir les prix Nobel, ils sont bénévoles ou ils sont payés?
Alors, vu que c'est l'Académie suédoise, je pense que c'est l'équivalent suédois de l'Académie française, donc c'est des gens qui sont désignés là, je pense qu'ils gagnent quand même un certain salaire, les immortels. Ouais.
Oui, parce que c'est honorifique, mais t'as quand même à côté... les à côté,
comment
les
fameux on dit, ils sont... ils sont pas payés, ils sont dédommagés pour le temps investi à hauteur de leur...
Probablement.
Peut-être. Ok, on mettra l'enquête. En tout cas, merci beaucoup. Du coup, maintenant, c'est Emeline.
Absolument. Alors, pour coller au thème littérature tout en parlant télé, rien de tel que d'évoquer une bonne vieille série britannique qui s'appelle Black Books. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent. Alors, je dis bonne vieille et je pèse mes mots. Attention, c'est le moment où vous prenez un coup de vieux. Puisque la série a été diffusée sur Channel 4 entre 2000 et 2004, donc en fait, c'était déjà il y a 15 ans.
Oh.
Voilà, voilà.
Merci, Emeline.
Alors, dans Black Books, en fait, on suit le quotidien de Bernard Black, libraire misanthrope qui passe son temps à boire et fumer, qui adore envoyer paître ses clients et qui ne prend surtout pas soin de sa boutique. La seule compagnie qu'il tolère plus ou moins, c'est celle de Fran, qui est une vendeuse de trucs dans la même rue, on ne sait jamais trop, et de Manny, son assistant, qui est particulièrement niais et qui a une espèce de magnifique nuque longue. Donc si vous aimez l'humour grinçant et assez extravagant, avec des côtés qui rappellent les Monty Python, vous passerez un bon moment devant ces 18 épisodes de 25 minutes. Alors pour ceux qui connaissent un peu le monde des comédies anglaises, vous retrouverez avec un grand plaisir tout le gratin habituel, donc c'est-à-dire Dylan Moran et Simon Pegg qu'on a vu dans Shaun of the Dead, Bill Barley de Cadavre à l'appel, et Olivia Colman qu'on connaît mieux mais pour des séries plus dramatiques comme Broadchurch ou The Night Manager, dans lesquelles elle a des rôles principaux. Donc Black Books, c'est une sitcom qui n'est pas très fraîche, qui a un petit côté vieillot, on le voit aux vêtements, à la qualité de l'image. Il y a des rires préenregistrés, bien sûr, vive les années 2000. Mais moi, je lui trouve un côté un peu réconfortant que vous apprécierez peut-être. Donc, comme c'était particulièrement dans le thème, si jamais vous avez un dimanche après-midi à tuer, n'hésitez pas. Black Books.
Merci beaucoup, Emeline, on y pensera. Et du coup, est-ce que c'était filmé en mode un peu vieillot déjà ou c'est juste parce que ça a 15 ans que c'est vieillot?
Je pense que c'est une série qui, de base, n'a pas forcément beaucoup de moyens.
D'accord.
Donc, t'as vraiment les principes de base des sitcoms où c'est toujours les mêmes lieux, c'est toujours filmé des mêmes plans.
Ils avaient les sous pour un décor.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est une espèce de grande librairie où c'est un gros capharnaüm avec énormément de bouquins mais partout et des canapés très miteux et du coup ça a une atmosphère un peu cheap qui est très drôle.
J'imagine un truc un peu poussiéreux, ouais, mais d'accord.
Mais c'est comme ça. C'est assumé, c'est agréable.
D'accord, super.
Voilà.
Super, merci beaucoup. C'est maintenant Guillaume qui nous proposait un texte en rapport avec Voltaire, si j'ai bien compris.
Oui, tout à fait. Donc bonjour à tous. Oui, je redis bonjour à chaque fois que c'est le début de ma chronique, même si je suis là depuis le début. Bonjour à tous pour ma chronique sur ce merveilleux thème qu'est la littérature, un thème si vaste et si complexe qu'il m'a fallu franchement cogiter pour écrire cette chronique. J'ai tout d'abord tapé simplement sur Internet littérature européenne, ce à quoi Internet m'a répondu que c'était l'ensemble de la littérature des pays d'Europe.
Merci Internet.
Merci Google. J'ai ensuite pensé faire une chronique sur les plus belles bibliothèques d'Europe et j'ai trouvé maintes réponses sur de somptueuses bibliothèques à Stuttgart en Allemagne, à Florence en Italie ou celle de l'abbaye de Saint-Gall en Suisse notamment. Sauf que bon, à la radio, c'est pas évident de montrer les plus belles bibliothèques d'Europe. Alors j'ai décidé de me concentrer sur les valeurs, la littérature étant là aussi pour exprimer des idées, des notions souvent abstraites, ainsi que des valeurs. Et quelle est la valeur principale que porte l'Union européenne? Eh bien c'est la paix. Et la paix c'est donc le contraire de la guerre. Et aussitôt, parmi la multitude d'auteurs européens, que je connais bien évidemment tous pour peu qu'on ne me questionne pas là-dessus, un nom m'est venu, Voltaire et son livre « Candide ou l'optimisme ». Car je crois que c'est l'auteur qui a le mieux décrit, avec une ironie féroce, la brutalité et les horreurs de la guerre. En même temps, comme pourrait le faire remarquer Richard, Candide parut en 1758, soit 2 ans après le début de la guerre de 7 ans, opposant d'un côté le royaume de France et l'archiduché d'Autriche, et de l'autre les royaumes de Prusse et de Grande-Bretagne. Voilà, t'allais le dire, Richard.
Ah, tout à fait.
Oui. Donc, Candide, je rafraîchis la mémoire à tout le monde. C'est l'histoire d'un jeune homme à qui son précepteur, Pangloss, a enseigné dans le château du baron de Thunder Ten Tronk que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il est chassé de ce château pour avoir essayé d'embrasser sa cousine Cunégonde, dont il est amoureux. Aussitôt après, il est enrôlé de force comme soldat de l'armée bulgare et assiste à une bataille qualifiée de boucherie héroïque. Et ce passage décrivant les horreurs de la guerre avec ironie est si bien écrit que je vais vous en citer un extrait. Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons formaient une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer. Les canons renversèrent d'abord à peu près 6000 hommes de chaque côté. Ensuite, la mousqueterie ôta du meilleur des mondes environ 9 à 10 000 coquins qui en infectaient la surface. La baïonnette fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d'hommes. Le tout pouvait bien se monter à une 30 000 âmes. Candide, qui tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu'il put durant cette boucherie héroïque. Et voilà, ce n'est qu'une des péripéties que vit Candide dans son histoire. Histoire que je vous encourage tous à relire ou à lire si vous ne l'avez pas fait au cours de l'année du bac de français. Mais toutefois, il m'a semblé judicieux dans cette émission européenne de littérature de rappeler avec style, en décrivant les horreurs de la guerre, la valeur essentielle de l'Union européenne qui reste tout simplement la paix. Voilà, je rends à présent la parole.
Merci Guillaume. Du coup, petit sondage, qui a lu Candide au lycée?
Je l'ai lu au lycée, mais c'était pas obligatoire.
Bah, c'était pas obligatoire, ok. Héloïse, tu l'as lu ou pas?
Oui, et je peux même dire que j'étais en seconde, et c'était il y a 4 ans.
Waouh, ok. Coup de vieux pour nous, merci. C'était quand pour vous la seconde? Je préfère pas compter, ok. Ben on arrive bientôt au terme de l'émission, on peut faire une petite actualité, Emeline.
Je suis encore choquée parce que je viens de citer que la seconde c'était en 2008, donc il y a 10 ans, et je suis toujours buggée là-dessus, pardon.
Et voilà, on est vieux.
C'était une époque des téléphones à clapet, on s'en souvient encore.
Oui, qui faisait des petites lumières.
Et l'infrarouge, pour envoyer des images.
Oui, tu parlais d'actualité, mais complètement. Il y a jeudi 19 avril, donc dans 2 jours, il y a la soirée portugaise à la Maison de l'Europe, place Jean Jaurès. Donc c'est la volontaire Carolina, la petite portugaise qu'on aime tous et qu'on salue,
qu'on
qui doit être en train de préparer.
Ici, la semaine dernière, on s'en rappelle avec ses histoires de train et tragico.
celle-là même, celle-là nous présentera même. Son pays. Et n'oubliez pas qu'il y aura toujours, comme c'est entrée libre, une bonne dégustation à la fin et des super photos. Et il faut bien encourager Carolina parce que ça va être trop top.
Donc venez nombreux, c'est gratuit, c'est sympa, on s'amuse bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avant de terminer? Il nous faut un nouveau thème pour la semaine prochaine, non? Qui c'est qui a l'enveloppe?
Alors je détiens entre mes mains la dite enveloppe et donc on proposait que ce soit Alex en tant que main innocente qui tire innocente. Un petit papier.
Est-ce que ta main est innocente, Alex? Oui ou non? Oui, à peu près.
Elle hausse les épaules. Elle tire le papier.
S'il te plaît, ne tire pas Diva.
Elle le déplie. Et
alors,
le mot est
suspense. Tac 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 tac.
Humoriste.
Oh.
Humoriste. D'accord. Et ben, ça sera le thème de la semaine prochaine.
Le rire en Europe.
Ouais. En vrai, c'est ok. Pourquoi pas? On va bien trouver quelque chose. Donc, on se retrouve mardi prochain à 12h30. Et sinon, c'est en replay pour ce soir si vous voulez réécouter notre émission. On se dit à la semaine prochaine, du coup.
Eh bien, avec grand plaisir. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ah oui, et puis.
À la semaine prochaine.
Thank you.